surface de l'océan. Elle est constituée d'eau. Et pourtant, il lui arrive parfois d'oublier quelle est cette eau. La vague a un début et une fin. Elle a une phase montante et une phase descendante. Elle sera tantôt haute, tantôt basse, plus forte ou plus faible que les autres vagues. Mais si elle se laisse piéger par des notions telles que début, fin, montée, descente, force ou faiblesse, elle souffrira certainement. Au contraire, si la vague prend conscience qu'elle est aussi de nature eau, la situation sera radicalement différente. Car, avec sa nature d'eau, elle ne se préoccupera plus de savoir si elle est début, fin, montée ou descente. Elle pourra savourer sa montée, sa descente. Elle appréciera simplement le fait d'être cette vague ou d'être l'autre vague. Dès lors, la discrimination et la peur n'ont plus leur raison d'être. La vague n'a pas besoin de chercher l'eau. Elle est eau, dans le moment présent. Notre véritable nature n'a ni commencement ni fin. Elle n'a ni naissance ni mort. Ainsi, dès que nous parvenons à toucher notre véritable nature, il n'y a plus de peur ni d'angoisse, plus de désespoir. Notre nature véritable est celle du nirvana. On pourrait dire que nous avons été nirvatisés par la nature de non-commencement. Selon la logique de notre esprit, mourir signifie que nous passons soudainement de quelque chose à plus rien. Que nous sommes quelqu'un et d'un coup, ne sommes plus personne. Or, comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous savons qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage peut devenir pluie, neige, grêle. Il peut se transformer en rivière, thé ou jus. Mais jamais il ne mourra. C'est impossible. Sa véritable nature est celle de la non-naissance et de la non-mort. Ainsi, si vous avez récemment perdu une personne très proche de vous, je vous invite à essayer d'en percevoir les nouvelles manifestations autour de vous. En réalité, cette personne ne peut pas mourir. C'est impossible pour elle. Elle continuera toujours à se manifester de nombreuses façons. Grâce aux yeux du Bouddha, vous pourrez reconnaître sa présence autour de vous et même en vous. Mon ami, je sais que tu es encore là, dans ta nouvelle forme. Avant notre naissance, nous existions déjà dans le ventre de notre maman, et même avant, nous existions pour moitié dans notre père et pour l'autre moitié dans notre mère. Aucune chose ne peut surgir de rien. Nous ne venons pas d'un état de non-être. Nous avons toujours été là, sous une forme ou une autre. Notre nature est celle de la non-naissance et de la non-mort. Le nirvana signifie donc l'extinction de toutes les notions, quelles qu'elles soient, y compris les notions de naissance et de mort, d'être et de non-être. Le 16e exercice que nous venons de décrire nous invite donc à nous libérer, nous débarrasser de toutes ces notions, nous permettant ainsi d'accéder à la véritable liberté. C'est un des textes les plus basiques sur la méditation, et il serait profitable d'avoir le temps d'étudier en profondeur ce sutra et d'appliquer les enseignements dans notre vie quotidienne. Une lettre de votre enfant intérieur par Glenn Schneider. La pratique proposée ici est en fait la combinaison de deux pratiques. D'une part, la rédaction d'une lettre et d'autre part, l'écoute de ce que l'enfant veut exprimer. Durant cette pratique, nous éviterons de repasser en détail tout ce que nous avons vécu quand nous étions un enfant. Nous privilégierons au contraire le rapprochement avec notre enfant intérieur. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Ou qu'attends-tu maintenant de l'adulte que tu es devenu? Dans un second temps, nous pourrons alors rédiger la lettre que notre enfant intérieur serait susceptible d'écrire. Apprêtons-nous à être occupés un certain bout de temps, car sa liste de demandes nous paraîtra peut-être interminable. Pour ma part, mon petit bonhomme m'a demandé des choses aussi variées qu'un animal en peluche pour la nuit, du sorbet à l'orange, un repas composé de la fameuse tourte surgelée au poulet de chez Swanson, un comble pour moi qui suis végétarien, ou une reprise de contact avec un cousin qu'on aimait beaucoup, mais qu'on n'avait plus vu depuis plus de 30 ans. Il suffit juste de placer notre stylo ou crayon sur le papier et d'écrire tout ce qui se présente à nous. Et surtout, de ne pas s'inquiéter de la mise en page, simplement d'écrire. Le tout est d'établir la communication avec l'enfant qui vit encore en nous. En ce qui me concerne, j'ai pu faire quasiment tout ce qui figurait sur la liste de mon petit enfant. Et depuis, je me sens nettement plus stable et heureux. Et ce, de façon vraiment profonde. Les cinq touchés de la terre. La pratique du toucher de la terre, également connue sous l'appellation révérence profonde ou prosternation, est là pour nous aider à retourner à la terre et à nos racines, et ainsi reconnaître que nous ne sommes pas seuls, mais connecté à tout un courant d'ancêtres spirituels et génétiques, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont bâti notre pays. Nous touchons la terre pour nous libérer de notre perception d'être séparés et pour nous rappeler que nous sommes la terre, que nous faisons partie de la vie. En touchant la terre, nous respirons toute la force et la stabilité de la terre et de notre famille génétique et spirituelle. Nous recevons aussi l'énergie de toutes les personnes qui ont habité notre pays. Sur l'expiration, nous nous libérons de notre souffrance. Nos sentiments de colère, de haine, de peur, d'inadéquation ou de chagrin. 1. En gratitude, je m'incline devant toutes les générations d'ancêtres de ma famille génétique. Je visualise ma mère et mon père, leur sang, leur chair et leur vitalité circulent dans mes propres veines et nourrissent chacune de mes cellules. À travers eux, je peux aussi voir mes quatre grands-parents. Je porte en moi la vie, le sang, l'expérience, la sagesse, les joies et les tristesses de toutes ces générations. J'ouvre mon cœur, ma chair, mes os, pour recevoir l'énergie de clairvoyance et d'amour, ainsi que l'expérience qu'ils m'ont transmise. Je sais que les parents aiment toujours leurs enfants et petits-enfants, qu'ils leur apportent leur soutien, et ce, même s'ils ne sont pas toujours capables d'exprimer leur amour de façon très habile, en raison des difficultés qu'eux-mêmes ont rencontrées. Je suis la continuation de mes ancêtres, et je permets à leur énergie de circuler à travers moi. Je leur demande soutien, protection et force. 2. Avec gratitude, je m'incline devant toutes les générations de mes ancêtres spirituels. Je vois en moi mes enseignants spirituels, ceux qui me guident sur la voie de l'amour et de la compréhension, ceux qui m'apprennent à respirer, à sourire, à pardonner et à vivre en profondeur le moment présent. Je m'ouvre, cœur et corps, à cette énergie de compréhension, de bonté aimante et de protection qui me vient des êtres éveillés, de leur enseignement et de la communauté de pratique depuis de nombreuses générations. Je fais le vœu de pratiquer pour transformer la souffrance qui est en moi et dans le monde, et de transmettre l'énergie de mes ancêtres spirituels aux futures générations de pratiquants. 3. Avec gratitude, je m'incline vers ce pays que j'habite et vers tous les ancêtres qui ont œuvré à son existence. Je suis conscient de n'avoir besoin de rien, d'avoir déjà tout. Je suis protégé et nourri par cette terre et par tous les êtres vivants qui y ont vécu et qui, au prix de tant d'efforts, y ont rendu la vie digne d'intérêt et possible pour moi. Je me vois en train de toucher la terre de mes ancêtres d'origine européenne, eux qui ont vécu ici de si nombreuses années et ont développé des moyens d'existence pacifiques et en harmonie avec la nature, protégeant les montagnes, les forêts, les animaux, les végétaux et minéraux de ce pays. Je sens l'énergie de cette terre pénétrer mon corps et mon âme. Elle me soutient, elle m'accepte. Je fais le vœu de participer à la transformation de la violence, de la haine et de l'aveuglement, encore si profondément enracinés dans la conscience de notre société, offrant ainsi ma contribution pour que les générations à venir connaissent davantage de sécurité, joie et paix. Que la terre de mon pays me soutienne et me protège. 4. Avec gratitude et compassion, je me prosterne et transmets à tous ceux que j'aime l'énergie que j'ai reçue de mes ancêtres. Je transmets à présent l'énergie que j'ai reçue à mon père, à ma mère, à tous ceux que j'aime, à tous ceux qui ont souffert, qui se sont fait du souci pour moi et mon avenir. Je souhaite de tout cœur qu'ils jouissent d'une bonne santé et vivent dans la joie. Je prie tous mes ancêtres génétiques et spirituels, ainsi que les familles ayant habité cette terre, de protéger de leur énergie et de soutenir tous mes êtres chers. Je ne me vois plus comme une entité séparée. Je suis un avec ce que j'aime. 5. Avec compréhension et compassion, je m'incline afin de me réconcilier avec toutes les personnes qui m'ont fait souffrir. J'ouvre grand mon cœur et envoie mon énergie d'amour et de compréhension à chaque personne m'ayant causé de la souffrance, ainsi qu'à celles qui ont détruit une grande part de ma vie et celles des personnes qui me sont chères. Je sais à présent que ces personnes ont elles-mêmes traversé de nombreuses souffrances et que leurs cœurs se sont emplis de douleur, colère et haine. Je prie à présent qu'elles puissent se transformer afin de goûter à la joie de vivre, mettant ainsi un terme à ce cycle de souffrance, tant pour elles-mêmes que pour les autres. Je vois leur souffrance et refuse désormais de porter en moi ces sentiments de haine ou de colère envers elles. Je ne veux pas que ces personnes souffrent et j'envoie mon énergie d'amour et de compréhension à chacune d'elles. Je demande à tous mes ancêtres de leur venir en aide. Traité de paix. Quand quelqu'un a réveillé notre colère ou notre irritation, nous devons le lui exprimer dans un délai de 24 heures. Si notre énervement est tel que nous nous sentons totalement incapables de nous exprimer de façon suffisamment aimable, nous pouvons toujours lui écrire, lui donner un mot de paix, et ce, avant que les 24 heures ne se soient écoulées. Je vous donne un exemple de traité de paix. Date, heure, chair. Ici, vous indiquez le prénom de la personne à qui vous écrivez. Ce que tu as dit, fait ce matin, cet après-midi, m'a particulièrement mise en colère. J'en ai beaucoup souffert. Et je tiens à ce que tu le saches. Voici les faits. Ici, vous énumérez les faits. Es-tu d'accord pour que nous prenions le temps d'examiner cela ensemble? Pouvons-nous analyser la situation ouvertement et dans le calme ce vendredi soir? Et vous signez de votre prénom, suivi de « qui ne va pas trop bien en ce moment ». Pratique du nouveau départ. La pratique du nouveau départ, aussi appelée la pratique du renouveau, peut se faire au sein de notre famille ou de notre communauté de pratique, avec une personne avec qui nous éprouvons des difficultés. Nous pouvons même pratiquer le renouveau avec nous-mêmes. Au village des pruniers, le renouveau se pratique chaque semaine. C'est l'occasion de nous réunir en cercle autour d'un vase garni de fleurs fraîchement cueillies et de suivre notre respiration dans l'attente que le facilitateur ouvre la cérémonie. Celle-ci se déroulera en trois phases. L'arrosage des fleurs, l'expression des regrets est l'expression des difficultés et souffrances. C'est une magnifique pratique pour éviter que des sentiments de souffrance ne s'accumulent au fil des semaines. Elle permet ainsi que chaque membre de la communauté s'y sente en sécurité. Nous commençons par l'arrosage des fleurs. Quand une personne se sent prête à parler, elle le manifeste en joignant les paumes des mains. À leur tour, les autres participants joignent leurs paumes en signe de réponse, montrant ainsi que l'espace de parole est tout à elle. C'est alors qu'elle se lève, marche lentement vers les fleurs et emmène le vase jusqu'à sa place dans le cercle. Lorsqu'elle s'exprime, ses mots reflètent la fraîcheur et la beauté des fleurs qui se trouvent face à elle. Durant la phase de l'arrosage des fleurs, elle veille à souligner toutes les merveilles et belles qualités des autres membres du cercle. Nous veillons toujours à ce que nos mots reflètent la vérité. Ce n'est pas de la flatterie gratuite. C'est par notre pleine conscience que nous pouvons percevoir clairement les points forts des autres personnes. Tout le monde en possède. Durant sa prise de parole, personne ne l'interrompt. Elle prend le temps dont elle a besoin. Et chaque personne pratique l'écoute véritable. Après avoir à nouveau joint les paumes des mains pour indiquer qu'elle a exprimé tout ce qu'elle souhaitait, elle se lève afin de replacer les fleurs au centre. Cette étape de l'arrosage des fleurs n'est pas à sous-estimer, car son essence est de rétablir l'amour et la compréhension parmi les membres de la communauté. En effet, si nous parvenons à reconnaître très sincèrement toutes les qualités des autres personnes, il sera bien difficile de nous accrocher à nos sentiments de colère ou de ressentiment. Nous aurons une tendance toute naturelle à nous radoucir, et notre perspective pourra s'élargir afin d'inclure l'ensemble de la réalité des choses. Dès lors, libérés de nos perceptions erronées, de l'irritation et du jugement, nous pourrons aisément trouver le chemin de la réconciliation avec les autres membres de la communauté ou de notre famille. Dans la deuxième phase du renouveau, nous allons exprimer nos regrets pour les actes que nous avons posés et qui ont blessé quelqu'un d'autre. Il suffit parfois d'une simple petite phrase prononcée sans réfléchir pour blesser une autre personne. La cérémonie est alors une excellente occasion d'exprimer nos regrets pour un geste ou une parole qui a pu blesser quelqu'un les jours précédents et d'y remédier. Enfin, dans la troisième phase du nouveau départ, chacun pourra exprimer ce en quoi il a pu se sentir blessé par d'autres. Et c'est là que la parole aimante est essentielle, car notre intention profonde est de guérir la communauté, pas de la blesser. Notre discours est franc, mais pas destructeur. C'est pourquoi la méditation de l'écoute est une part importante de la pratique. Assis en cercle, parmi tous nos amis pratiquant l'écoute profonde, notre parole gagne en beauté et devient plus constructive. Jamais nous n'adressons de reproches. Jamais nous ne cherchons la dispute. L'écoute compatissante est de toute première importance. C'est dans cette dernière partie de la cérémonie que nous écoutons les difficultés et les souffrances de la personne qui s'exprime. Nous l'écoutons avec le profond souhait d'apaiser sa souffrance, et certainement pas de la juger ou de susciter le conflit. Toute notre concentration est portée vers cette écoute, et même si nous entendons des propos qui ne sont pas exacts, nous poursuivons notre écoute profonde afin de permettre à l'autre personne d'exprimer sa souffrance et, ainsi, d'apaiser les tensions qu'elle porte en elle. À cette étape, nous nous contentons d'écouter, car si nous lui répondions ou cherchions à corriger ses propos, la pratique ne porterait pas ses fruits. Et si nous ressentons la nécessité de lui dire que sa perception n'est pas correcte, nous pourrons le faire quelques jours plus tard, calmement et en aparté. Il n'est pas impossible non plus que lors de la cérémonie de renouveau suivante, cette même personne rectifie son erreur par elle-même, sans que personne n'ait eu à lui en parler. Généralement, la cérémonie du nouveau départ se clôture en chantant ou en nous mettant en cercle, nous donnant les mains, consacrant une ou deux minutes à respirer ensemble. Lâcher prise émotionnelle et mouvement physique. Par Taifap Han. Quand nous méditons et recherchons les causes et les racines de nos contrariétés, de nos attachements douloureux, il n'est pas rare que ressurgissent des images de notre enfance et qu'elles nous accompagnent encore plusieurs minutes. Dans ce cas, il est essentiel de rester pleinement conscient de notre corps physique. Peut-être se mettra-t-il à trembler. Il est possible aussi que nous éclations en sanglots et que cela se prolonge quelques minutes ou parfois plus longtemps. Ce relâchement émotionnel peut avoir un effet très bénéfique et, après un tel épisode, nous ressentirons probablement plus de légèreté, accédant même à une perception beaucoup plus claire de la situation. Avec le temps, nous nous sentirons nettement plus libres. Ce processus de libération de la souffrance est excellent. On peut en effet s'attendre que la guérison fasse suite aux pleurs et à l'expression des émotions. La toute première fois que nous traverserons une telle expérience, il est possible que la libération émotionnelle soit particulièrement forte, peut-être 10 sur une échelle de 1 à 10. Le deuxième épisode sera sans doute déjà moins fort, peut-être 8 sur 10, puis 6, 4, 3, 2, 1, etc. Ainsi, dès que l'énergie aura été libérée, nous serons en mesure de regarder notre situation en profondeur et de mieux comprendre ce que nous revivons. C'est là que prend naissance l'amour véritable. Nous n'éprouverons plus de colère. Nous pourrons comprendre les personnes qui nous ont blessés profondément, véritablement. Il est vraiment important de ne pas nous laisser submerger par le processus émotionnel, l'explosion ou la libération émotionnelle. Nous veillerons aussi à ne pas nous perdre dans la souffrance que l'épisode nous révélera. Au contraire, il sera même tout à fait bénéfique d'observer comment tout cela émerge. Il faut aussi que le processus reste naturel, car la vraie guérison naîtra de la compréhension véritable. Une autre pratique essentielle dans ce cadre est le mouvement physique. En effet, toutes ces fortes énergies peuvent se loger dans notre corps et dans certains organes, comme les reins, le foie ou le cœur. Après la libération émotionnelle, ces organes seront probablement vulnérables et déséquilibrés. Il est donc important d'en prendre soin et de pratiquer des mouvements qui permettent à l'énergie de circuler. Nous veillerons donc à régulièrement pratiquer quelques exercices tels que ceux proposés par le Tai Chi ou le Qigong. Nous aiderons ainsi notre corps sur le chemin de la guérison véritable.
Merci et à bientôt chez Audible.